Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty.
Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris. Il y en a beaucoup, notamment celle qui est située aux 4 rue de l'Ancienne Comédie sur 99.9. Et vous savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et vous écoutez le numéro 1236 d'Invino depuis la création, c'était il y a quasiment 20 ans. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure Thomas Petit, qui est cofondateur et dirigeant de Solumatic. Et puis le Vino Quiz pour gagner 2 places pour le salon des Outsiders de Guy de Carin à Paris. Ça va être dans quelques jours, un coffret découverte de la cidrerie Lobinière en Bretagne. Très belle maison, ainsi qu'un coffret gourmand du domaine Antoine de Lafarge. Nous serons dans la Loire. Et pour gagner, il faudra aller jouer sur invinoradio.tv. À mes côtés pour nous accompagner, comme hier, l'exceptionnel Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure.
Bonjour
tout
Alain.
Va bien, vous avez bien dormi, vous avez fait
je devrais
vous
voir
hier
plus
soir.
Souvent, je pense.
Et Philippe Forbach, l'excellent Philippe Forbach. Notamment meilleur sommelier du monde et propriétaire d'un très bon restaurant aussi, qui s'appelle le Bistrot du Sommelier à Paris. Boulevard Haussmann, bonjour Philippe.
Bonjour Alain.
Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Benjamin Gutmann du château Jouvent à Bordeaux. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Alors racontez-nous, c'était l'histoire de famille, 9 hectares, et vous êtes situé à 30 km de Bordeaux, en appellation grave.
Exactement, château Jouvent, c'est une propriété de 9 hectares qu'on a acheté en famille en 2016 à l'initiative de mon père.
Vous faisiez quoi avant ?
Je travaillais auparavant dans l'administration et plus précisément pour un ministère régalien, le ministère de la Défense.
Pour le ministère de la Défense ?
Oui.
Vous avez fait le grand écart, là. C'est passé de l'arbre au liquide.
Je suis passé de la défense du territoire à la défense du terroir.
Oh, c'est beau ça. Ouais, ça. Laure.
C'est de la guerre à la paix aussi.
Oui, c'est ça aussi, oui. Ouais.
De la défense au plaisir.
Voilà.
De la défense du plaisir. Alors, oui.
Oui, alors comment est-ce qu'on fait un projet en famille ? Parce qu'en général, en famille, c'est plutôt femme, mariée, femme. Mais là, le père et fils, vous n'avez pas 20 ans, je pense.
Non, je n'ai plus 20 ans depuis quelques années, mais... Il s'avère que mon père est un très grand amateur de vin qu'il a investi depuis ses 20 ans dans le vin, dans les JAV. Et arrivé à un moment où il avait vraiment le désir de créer un endroit qui soit un lieu de rassemblement familial et un lieu de production. Et à partir de ce moment-là, il a rencontré un intermédiaire. Et mon père m'appelle, David m'appelle et me dit « Benjamin, si tu veux, viens avec nous, on va visiter quelques domaines pour en acheter un ». Je l'ai regardé assez surpris, j'ai dit « D'accord, on va passer quelques jours en vacances ensemble ».
Et ça a été tout de suite Bordeaux, les Graves, où vous avez sillonné
alors, il a fait son éducation, on va dire, œnologique, œnophile.
Quel âge avait votre papa à ce moment-là ?
Il avait 66 ans. Oui. Donc en 2016.
Donc sans vous, il ne l'aurait pas fait, clairement.
Le processus a commencé en 2015. Disons que lui est un très grand amateur de vin de Bordeaux. Et il est passé par un intermédiaire pour visiter plusieurs domaines. Et Château Jouvent a été en fait le premier domaine qu'on a visité.
Ah, c'est le premier ?
Voilà. Et en sortant de là, on s'est regardé et on s'est dit ok, autant faire un coup de folie que ça soit ici. À Château Jouvent et pour plusieurs raisons, et notamment parce qu'il y avait une qualité de vin qui était quand même assez bonne.
D'accord.
Qui nous a beaucoup plu, et on avait un responsable technique qui est toujours présent, qui s'appelle Olivier Bernadet,
que l'on salue,
qu'on en salue chaleureusement, qui voulait continuer à travailler avec nous. Et du coup, ça nous a permis en fait de travailler dans la continuité.
Ah, super.
Ce qui a été quand même quelque chose qui nous a permis de rationaliser, d'éviter.
Vous avez un vrai château ou alors c'est comme à Bordeaux, il n'y a jamais de château ?
Non, c'est une vraie maison, c'est une gentilhommière, on va dire, et nous avons les vignes tout autour de la maison. Donc quand on goûte du château Jouvent, on goûte un vrai vin de lieu, un vrai vin local,
alors,
de terroir.
Vous avez du coup quel cépage ? Vous faites plus de blanc que de rouge parce que les graves jusqu'à... Enfin, récemment c'était des blancs, maintenant c'est passé au rouge.
Comment en effet, alors j'allais dire malheureusement, mais c'est comme ça. On a, disons, une proportion de rouge et de blanc qui est similaire à ce qu'on a à Bordeaux. C'est-à-dire en gros 80%, 85% de rouge, 15% de blanc. Aujourd'hui, on a 1,8 hectare en blanc, ce qui nous fait sur une très bonne année hein, ce qui devient assez exceptionnel maintenant, environ 7 à 8 000 bouteilles avec 4 cépages différents. Oui. Le Sauvignon, une majorité de Sémillon, du Sauvignon blanc, du Sauvignon gris et de la Muscadelle. De l'autre côté, on a du Merlot, du Cabernet Sauvignon, du Petit Verdot. Et puis, face, on va dire, aux contraintes climatiques dont on fait face, on a décidé d'acheter un hectare qui est voisin de notre domaine, vraiment à proximité immédiate, où on va planter du Petit Verdot, du Cabernet Sauvignon et du Sémillon.
Donc ça, c'est pour résister à la température, au changement climatique ou pas ?
C'est pour nous permettre en fait de garder quand même
un équilibre,
certain, voilà, un certain fraîcheur, potentiel de production.
Philippe Orbach, on parle de cette appellation grave. Ouais. Elle est assez homogène, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de domaines, il y a pas mal d'hectares aussi, mais les vins sont bons. Il y a pas de
tourbillonneuse. Les vins sont accessibles et super chers. Pour moi, ça me parle vraiment en tant que sommelier et amateur de vin, parce que c'est la seule appellation qui porte le nom de son sol.
C'est vrai.
Les graves, c'est une nature géologique faite de cailloux, de terre, etc. Ouais. Ce sont des graves d'origine souvent garonnaise ou pyrénéenne. Les graves de Guns, etc. Sur les différentes étapes, mais en tout cas, c'est le nom de la terre. Et c'est fort pour une appellation. Donc les gens sont un peu les garants d'une expression particulière. Moi, j'avais une petite question pour vous. La consommation des vins rouges a tendance un peu à stagner, voire à diminuer. Et c'est un vrai atout pour les graves qui font des très grands blancs. Laure l'évoquait tout à l'heure. Vous n'avez pas tendance aujourd'hui à replanter plus de blancs que de rouges?
Disons que proportionnellement, sur le nouvel hectare qu'on a, on va planter plus davantage de blancs que de rouges proportionnellement. Ensuite, comme vous le dites, on est la seule appellation à Bordeaux, et même en France, il me semble, à porter le nom de notre terroir. Et ce sol-là, en fait, a la caractéristique d'amener beaucoup de fraîcheur à nos vins, parce qu'on est sur un climat, on va dire, océanique tempéré à Bordeaux, donc il peut faire très chaud pendant la journée, mais on a des jeunes nuits qui sont très fraîches. Et c'est quelque chose, et c'est ce que j'explique à nos visiteurs, on est un joli centre d'accueil œnotouristique malgré notre petite taille, c'est que ce qu'on veut faire, pour moi la définition d'un vin de grave, qui sont en rouge ou en blanc, ce sont des vins qui sont fruités, qui ont de la complexité, mais qui ont surtout de la fraîcheur. Et donc avoir une certaine forme de complexité, mais dans la simplicité en quelque sorte.
Vous avez été élu parmi le top 100 des sites œnotouristiques par Terre de Vin, il me semble.
Exactement, oui, dans la catégorie transmission du savoir-faire, art et culture.
En quelques années, c'est
très bien ça. La gamme de prix, donc ça va de combien à combien chez vous ?
Nous allons de 11,40 € à 45 euros.
11,40 €, hein.
Ouais.
Ah oui,
je
40
suis précis.
C'est important. Et pourquoi 40 d'ailleurs ?
C'est psychologique.
C'est le 440.
Voilà. Il aime les chiffres, il aime compter.
Non, mais ça pourrait être 11,50 € en effet, mais bon.
Ou 12 euros, voilà, ou 11, quoi.
Voilà, on essaye de garder en fait notre cuvée plaisir accessible à tous. Et on monte en gamme avec notre élevage barrique, un vrai vin d'assemblage, que ce soit en blanc et en rouge. Et puis à 45 euros, on a un élevage, plutôt une vinification intégrale dans des barriques de 400 litres, qui nous permet vraiment, dans des barriques 100% de bois neuf, hein, je tiens à le préciser, qui nous permet d'avoir une très belle intégration du bois et pas mal de volume et beaucoup de subtilité.
Donc pas de regret d'avoir quitté la fonction publique ?
Absolument pas.
Ouais. Et alors pour la vente, vous les vendez, vous produisez combien en moyenne sur une année normale, on va dire, hein ? La normalité étant aléatoire.
Je ne sais
aléatoire.
Plus ce qu'est une année normale. Une année normale, on dirait qu'on ferait environ 40 000 à 45 000 bouteilles.
D'accord.
Voilà, cette année, on va être aux alentours de 35 000 bouteilles.
Et vous les vendez aux particuliers ? Vous allez vous prendre une petite valoche là, pour aller exporter un peu ? Comment
vous faites ? Moi, la caractéristique de Château Jouvent, c'est qu'on connaît chacun de nos clients, que ce soit le particulier jusqu'à l'export. C'est comme ça, on fonctionne de cette manière-là. Et donc, le cœur de notre clientèle, c'est la clientèle particulière, parce que Château Jouvent est un lieu d'accueil œnotouristique, mais on a aussi la chance d'avoir un lieu d'accueil à Paris, à côté de la place de la République.
C'est une boutique ?
Une boutique, un lieu de stockage, un lieu de rencontre,
on peut acheter
dire,
où
on peut, voilà, c'est un peu secret, mais il suffit de prendre son
note. Pourquoi c'est secret ?
Bah, parce qu'on n'a pas pignon
sur rue, ça marche pas.
On n'a pas pignon sur rue, on est dans les étages. Donc on n'a pas une vraie vitrine. Mais les gens qui nous connaissent, voilà, des gens qui connaissent peuvent nous prendre contact avec nous. Et nous travaillons beaucoup.
Qu'est-ce qu'il va dire, Philippe? Il a dit quelque chose.
Et nous travaillons beaucoup avec la restauration de la brasserie jusqu'à la restauration étoilée. Voilà, et ensuite, on a aussi de l'export.
Température de service, peut-être pour terminer, c'est important. C'est votre vos blancs, vos rouges. On essaie à peu près quelle température?
C'est même essentiel, la température de service. Sur un rouge, je dirais à jouvente entre 16 et 18 degrés pour avoir toujours cette impression de fraîcheur, pour ne pas avoir de tanin qui soit trop agressif et une présence de l'alcool trop forte. Et puis pour le blanc, entre 8 et 10 degrés, ça suffit largement.
Tout comme merci, pour le rosé. Merci beaucoup Benjamin. On part une petite pause et puis on se retrouve avec le Vino Quiz.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Paris, par exemple, aux 4 rues de l'Ancienne Comédie sur 99.9. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux ou sur Insta Invino Sud Radio. À mes côtés, David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux. Bonjour David.
Bonjour Alain.
Invino Sud Radio accueille un nouvel invité, Thomas Petit, qui est cofondateur et dirigeant de Solubati. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors vous avez un master en système d'information, master 2, et vous avez commencé votre carrière comme ingénieur développeur. On est bien loin du vin, Thomas.
Oui, on n'était pas orienté au départ sur le vin, mais avec mon associé Teddy, on vivait tous les deux dans des régions viticoles et on s'est
intéressé. Vous étiez où?
Moi j'étais à Tours.
Et Teddy, il était où?
À Nantes.
Donc vous allez créer tous les deux avec votre complice Teddy Pereira, la société Solubatique en 2014. L'idée c'était quoi? C'était tout de suite de travailler dans le domaine du vin ou pas du tout?
C'était, au départ on voulait faire un logiciel de gestion commerciale parce que moi j'avais le côté informatique, lui le côté commercial. Et comme on était dans des régions viticoles, on s'est rendu compte que les vignerons n'avaient pas de système d'information qui était vraiment adapté pour leur métier, qui soit simple d'utilisation et qui leur permette de gagner du temps.
Quels sont les facteurs que vous avez dû intégrer dans ce système qui étaient différents d'un système destiné à, je sais pas quoi, à un maraîcher, par exemple?
En fait, les vignerons sont touchés par les taxes en France, les taxes sur les alcools. Mmh. Et les logiciels actuels de gestion commerciale standard ne permettent pas de gérer toutes ces taxes autour du vin et autour des alcools. Donc nous, on vient automatiser toutes ces démarches administratives. Mmh. Les vignerons sont suivis par les douanes, sont suivis par les interprofessions. Et donc, on fait le lien, nous, entre ces vignerons et ces interprofessions.
Et avant, ils faisaient ça comment? À la mano?
Ils font ça à la main, sinon. Et du coup, par exemple, ils font
très compliqué,
des déclarations mensuelles aux douanes. S'ils le font à la main, ça leur prend à peu près 2 jours de travail. Quand nous, on va leur sortir en un clic, donc en moins d'une minute.
David Cobold, c'est vrai que le métier d'un vigneron, c'est de donner un bon raisin, de vinifier, et puis après de les vendre. Mais de s'occuper de tout ça, c'est pas facile.
Y a aussi la part administrative. Donc, il y a les emplois, il y a toutes les contraintes liées au personnel, s'il a du personnel, et c'est presque toujours le cas, plus ou moins. Et puis, l'aspect fiscal est très important, parce que les alcools sont taxés en fonction de leur puissance. Donc, si vous êtes distillateur, c'est pas le même taux que si vous êtes vigneron. Et aussi, gérer les stocks, parce que ça, c'est très compliqué de gérer les stocks, et qu'est-ce qui est dû sur les stocks, et qu'est-ce qui est dû sur le vendu.
Et ça prend du temps, David. Hein.
Et ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps,
donc,
et
vous
une
avez,
certaine expertise.
Thomas, combien de vignerons qui travaillent avec vous?
On travaille avec 1600 domaines à travers toute la France.
1600 domaines, quoi. Et vous les trouvez comment? Alors, parce qu'ils n'écoutent pas forcément tous Invino Sud Radio, ce qui est un tort d'ailleurs.
Non, on va travailler. On a une équipe marketing qui fait un travail remarquable pour aller chercher les vignerons. On se déplace sur les salons. On fait aussi des salons pour les professionnels des alcools aussi, pour toucher les vignerons, pour leur apport matériel.
Donc ça peut aussi être intéressant pour les cavistes, par exemple, les distributeurs de vin.
Et c'est tout l'univers, environnement, la
chaîne. Tous ceux qui peuvent vendre du vin ou des alcools, on peut faire des outils qui soient complètement adaptés à eux.
Et les 1600 clients que vous avez à date, ce sont des petits vignerons ou des petits distillateurs, ou alors vous avez également des grands groupes? Ça, c'est plutôt pour les TPE, PME, votre offre?
Non, on est plus sur les TPE, PME. On fait des offres plus sur mesure à ce niveau-là pour l'instant. Généralement, les grands groupes sont déjà équipés.
Oui, c'est ça. Ils ont un DSI, ils ont aussi...
Voilà.
Et alors, dites-nous, votre business model, comment ça marche? Vous vendez un abonnement sympa à 3 milliards d'euros par jour, et le vigneron, il est content, c'est ça?
Non, on fait justement, l'informatique, c'est pas une priorité forcément pour les vignerons, donc on a établi des tarifs qui soient adaptés pour eux. Donc, soit il y a un système de licence. Ils achètent une fois la licence, c'est de l'ordre de 1 900 euros. Ou alors, ils sont en abonnement, un abonnement mensuel. Et voilà, et là,
de combien à peu près ?
Une cinquantaine d'euros par mois à peu près.
Oui, donc c'est raisonnable, y compris pour un petit vigneron.
Et derrière ça, est-ce que vous aussi, vous proposez des services de conseil, par exemple, s'il y a un énorme problème et quelqu'un n'arrive pas à s'en sortir ?
Ça sort vos problèmes techniques, David.
On a plusieurs choses à ce niveau-là. De base, avec Vitisoft, on a tout un support de maintenance qu'ils peuvent appeler à n'importe quel moment et on pourra les aider, les guider dans leur utilisation du logiciel. Et ce qu'on a développé là tout dernièrement, c'est un système qui s'appelle Padawine. C'est une plateforme en ligne. On va donner des conseils stratégiques et commerciaux aux vignerons.
Ah, donc rien à voir avec la technique et la gestion des stocks et l'administratif. Hein.
En fait, on prend un petit peu l'idée de dire qu'on a créé un logiciel. Donc on peut voir ça un petit peu comme une voiture, une Ferrari, mais il faut savoir la piloter. Ouais. Et donc là, maintenant, ce qu'on leur offre, c'est les cours de pilotage pour l'utiliser à 100%.
Bon, ça marche avec les motos, David, aussi. Hein.
Certainement. Vu le système de commercialisation des vins qui est extrêmement varié, parfois les gens vendent en direct, parfois ils vendent à des détaillants, parfois à des particuliers, parfois ils ont un agent, parfois ils ont un négociant qui leur achète des vins. Comment vous gérez ces différentes strates de la commercialisation du vin ?
Alors ça, c'est plus par l'expérience qu'on a eue, parce que ça fait 10 ans qu'on fait ça. Sur 1600 domaines, on a des dizaines de milliers d'heures de téléphone avec les vignerons. Donc on a vu plein de cas différents se poser à nous. Et on a vraiment tout type de vignerons. On a des vignerons qui travaillent 30 000 particuliers, qui font que de la vente en direct au caveau. Et puis on a des clients qui vendent à un professionnel,
ouais,
qui
font
une exportation par an. Ouais. Voilà. Mais nous, on va s'adapter, on va essayer de voir un petit peu
les cas possibles. Et ça inclut l'export.
Oui, ça inclut l'export.
Et la France, c'est l'export. Alors justement, Solumatic, votre société qui délivre tous ces conseils à plus de 2000 vignerons et domaines dans le monde. Aujourd'hui, vous avez fait une levée de fonds, c'est ça, pour développer la société ?
C'est ça, on a fait une levée de fonds en tout début d'année pour continuer de grandir.
Vous avez déjà combien ? 1 million d'euros ?
1 million d'euros, oui.
Et ça, c'est suffisant pour... C'est quoi ? C'est pour investir en marketing, en technique aussi, peut-être ?
C'est ça, c'est aussi au niveau du développement, proposer des nouveaux outils. Là, par exemple, il y a une nouvelle réglementation qui sort, qui impose aux vignerons d'appliquer d'afficher les valeurs nutritionnelles et
une norme de plus.
C'est un serpent de mer, ce truc-là. Oui. Ouais.
Et d'afficher la composition du vin sur les bouteilles. Mmh. Et du coup, on va permettre aux vignerons d'afficher simplement un petit QR code.
Oui.
Et c'est un outil qui est complètement gratuit. Et ils vont pouvoir créer leur fiche de vin directement sur Internet.
Ah oui.
Et après, les utilisateurs...
Ce qui désencombre l'étiquette.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et l'offre, Thomas, elle est franco-française pour l'instant ? Ou alors vous avez également des velléités de travailler les vignerons italiens, espagnols, enfin l'Europe du vin, il y en a quand même beaucoup de pays.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où on pourrait travailler, mais pour l'instant on se concentre sur la France. Comme je vous l'ai dit, on travaille avec 1600 domaines. Il y a à peu près 50 000 vignerons en France, donc
il y a de la marge encore.
On a une grosse marge de manœuvre.
Bon, et pour terminer, votre meilleur souvenir dégustation ou de rencontre avec soit d'une émotion avec un vigneron, soit d'une dégustation d'un verre de vin.
Oh, un Saint-Estèphe.
Ah, Saint-Estèphe.
Oui.
Donc vous sortez de votre région là.
Oui, je sors de la région, mais on a l'avantage de travailler dans toutes les régions viticoles, donc du coup c'est.
Quel Saint-Estèphe, on peut demander?
C'est plus Saint-Estèphe en général.
Vous aimez les vins Saint-Estèphe. Bon, il y a pire d'évidence. Merci beaucoup, merci Thomas Petit, le cofondateur et le dirigeant de Solumatic. Mon cher David, on revient sur un sujet qui vous est cher, si je puis dire. C'est le terme minéralité. Oui. Beaucoup de personnes emploient ce terme, ce mot, ce qualificatif quand on parle de dégustation de vin. Ça vous fait plaisir ? Vous opinez du chef ? Au contraire, vous grondez ?
J'ai tendance à gronder, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est un mot, moi j'ai le Littré, j'ai l'édition de Littré que j'utilise pour mes écrits, datant de 2004. Ce mot n'existait pas.
Ah.
Donc déjà, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Son arrivée, j'ai vu un chart, quelqu'un a écrit un graphique sur les occurrences, le nombre d'occurrences de ce mot attaché au vin. Ça n'existait pas non plus avant les années 1990 et ensuite la courbe est ascensionnelle. C'est-à-dire que de plus en plus de gens, des professionnels du vin, plus ou moins avisés, l'emploient à plus ou moins bon escient pour tout type de vin. Ça peut être des blancs secs, ça peut être des doux, ça peut être des rouges.
Et il est minéral. Il est minéral.
Il est minéral. Alors, c'est pas un mot qui a un sens précis. Et d'ailleurs, la plupart des gens ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, j'estime qu'on utilise ce terme quand on ne sait pas quoi dire. et notamment quand le vin est acide et en absence de saveur dominante autre que l'acidité.
Ah, donc pour vous, c'est négatif.
Moi, je n'ai pas envie de bouffer des clous. J'ai envie de manger du fruit dans un vin. Voilà.
Bah, donc, Thomas est fakir, il attend ça.
Je ne suis pas un masochiste, donc me faire fouetter la langue par des minéraux, non. Alors, dans l'eau, par contre, l'eau minérale naturelle, là, on quantifie en milligrammes, en résidus secs, après avoir bouillé l'eau à 180 degrés, on mesure, vous goûtez un Vittel à côté d'un Contrex ou un EPA, et ben vous doublez chaque fois de taux de minéralité. Là, ça a un vrai sens. Il n'y a aucun sens lié à un contenu. Personne n'a mesuré les minéraux résiduels dans un vin. De toute façon, on serait incapable de les goûter parce qu'il y a tellement d'autres saveurs.
Oui, c'est ça.
Donc, pour moi, c'est un terme qui signifie rien, sauf que le type ne sait pas de quoi il parle et a un manque de parole. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est vrai que nous manquons de vocabulaire pour décrire le vin. C'est très difficile de décrire un vin.
Absolument. Puis alors, les difficile. Sensations et les perceptions sont différentes.
Et en plus, individuelles.
Absolument. Oui. Et suivant les pays, les traditions.
Oui, oui, oui. C'est... Oui. Et si on est mal luné ou bien luné.
Bon, donc, auditeur d'une vidéo, si vous entendez quelqu'un dire minéral, pof, vous appelez sortez. Directement David Cobol ou alors vous dites attention, ce monsieur aime les clous. Merci beaucoup, David Cobol. Merci également à vous, Thomas Petit, Laure Gasparotto, Philippe Forbrac et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent, on l'espère avec beaucoup de passion. Chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook, le compte Insta, Invino Sud Radio. Et on se retrouve samedi prochain, ça sera à 13h, pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellent dimanche. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français. Et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.